اعلان صادر کردن ما میپذیرم اعلام صادر کردن، اما من مرتد نیستم، من کفر نیستم، من یک عیسوی هستم.
Bonsoir à tous pour cette nouvelle émission de BAF Radio ce soir, émission spéciale Abdul Rahman que vous venez d'entendre. Je vous signale encore que donc la chronique de France qui était prévue sera repoussée à 21h. Pardon. Nous avons un léger problème, notre journaliste attitré Roland Richard qui était parti faire des sons à côté de l'Assemblée parce qu'il y avait du mouvement a été embarqué par la police, donc vraiment toute notre solidarité va pour Roland Richard. Nous aurons peut-être des nouvelles dès 21h, nous essaierons d'atteindre un membre de sa famille, et nous aurons ensuite, bien sûr, Michel de Poncin. Vous êtes les bienvenus pour vos questions et pour intervenir en direct quand vous le voulez via Skype, on vous attend. Ce soir, nous recevons Hussein Andarias de Afghan Times, au direct des États-Unis, hein, où il est seulement 14h, contrairement à chez nous. Hussein va nous parler de ce qui se passe donc en Afghanistan. Vous en avez entendu parler. Abdul Rahman, converti chrétien de l'islam depuis 16 ans, a été capturé par le nouveau gouvernement afghan et donc risque une condamnation à la peine de mort. Les signaux depuis l'intervention de la communauté internationale sont plutôt favorables, mais nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus. L'émission se fera évidemment en anglais, nous essayerons de faire une traduction au fur et à mesure, nous vous prions d'être indulgents, et sinon d'apprendre l'anglais, après tout, ma foi, c'est la mondialisation, c'est le monde d'internet, il faut se mettre un petit peu à la page. So, tonight we receive Hussein Andarias from Afghan Times. So, Hussein, good evening.
Good evening, sir.
So, it's very nice from you to be with us tonight. So, we say hello to USA from Switzerland and all the Europe who is listening to us. So, my first question, how is Abdul and is it well?
Well, we are in prayer to God that he is well, that he is healthy, and that he is with courage, and that is our prayer is. But you know, you are not in good health, you are not in good status when you are inside the jail, and when a lot of people probably are mocking at you, you know, speaking to you by names and stuff like that. So, but we are praying, and it is a part of Christian living. As a Christian, I believe Jesus Christ said that because of his name, people who will follow him will suffer in Matthew's Gospel, chapter 5. He says that. So suffering is there in Christianity, and but we are very much high-spirited, and I know that my brother is with courage, and I pray that God will give him grace.
Okay, so I will translate. Donc, nous avons demandé à Monsieur Andarias comment allait Abdul. Il semblerait donc en bonne santé, mais il est évident qu'on est rarement en bonne santé quand tout le monde se moque de vous. Apparemment, le respect qui lui est dû n'est pas complet en prison. Cela dit, toute la communauté chrétienne afghane et même mondiale prie vraiment notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il aille mieux et pour que sa situation s'améliore. So, we have seen in the news a lot of interventions from the different occidental states like Canada or even George Bush has said something. Do you believe that there will be a change for Abdul?
We pray that there will be a change. You know, we pray that through this situation, this new thing, that you know, the world community will realize that there is a need for freedom of expression. There is a need that people around the world must realize that every person has right to choose his faith, her faith. You know, God created man, and God gave also to man the gift of will, the gift of choosing your faith. Even there are people who reject God, and you know what? They are free to do that. That is the freedom God has given. But again, in my case and in Abdul Rahman's case, he and I was a Muslim, and we were Muslims, and we chose, and we chose by researching, by reading, and by reading religions, faiths, and all things, and we chose to follow Jesus Christ. And therefore, that freedom must be given to us. And that is our right, and that is a common human right that every person in every country must have. Whether those people live in France, in Holland, in Germany, in America, or in Saudi Arabia, or in Afghanistan, it doesn't matter where human beings live. So they must have the right to choose their religion, their faith. So this is one of my desires, that through this situation, the world will be open to a greater dialogue. The world will open to a greater understanding that if a person in an Islamic country accepts other religion, other faith, they must be given the right to live in the society, just like others come to the Western countries. Muslims come, and they preach Islam, and they are accepted in your society. So the same way Christians must be accepted in my society.
Alors, Monsieur Andreas dit que lui-même a été musulman, qu'il a choisi la foi chrétienne, qu'il estime que pour les chrétiens de l'Afghanistan, ce devrait être une liberté totale. C'est donc ce pourquoi a pris toute la communauté évangélique d'Afghanistan et chrétienne d'Afghanistan. Donc, ils estiment que la liberté qui est laissée aux musulmans dans les pays occidentaux devrait avoir un équivalent dans les pays orientaux d'obéissance islamique. Et donc, nous lui avons posé la question de savoir si l'influence, donc les interventions de George Bush ou du Premier ministre canadien, étaient satisfaisantes. Il semblerait que, disons, ça ait une influence sur ce cas-là, mais pas sur vraiment l'ensemble de la situation. Hamid Karzai, the Afghanistan president, have said to the Prime Minister of Canada that the human rights will be respected for Abdul. Do you believe in it?
I very much have faith in my president. He is a gentleman. He is a good man. And I respect Hamid Karzai very much. 4 days ago, I wrote to him a letter, and then I wrote to him another letter, and then I wrote to him another letter, and yesterday I posted that letter on the internet, and it can be found at afghantimes.com. On the top, there is a link, an open letter to the president of Afghanistan, Hamid Karzai. And in that letter, I have prayed for President Karzai that he should take a decision which is right, and the right decision is to let this man and let every Afghan who chooses to exercise their faith in whatever religion they want, or if they don't want a religion, that's okay too, you know, but they should give the right to this man to also have the custody of his children, and also to exercise his faith, and if he wants to remain in Afghanistan or if he wants to go outside. One thing, and I have a complete faith in my president, and I pray for him that he will decide that. And President Karzai, he is a gentleman, again, as I said. He is a gentleman, and I always pray for him. He is a good man. Yes, I do have confidence in him.
Alors, Monsieur Andreas dit que oui, il a confiance dans son président, parce que nous lui avons posé la question de savoir si les assurances que le président Karzai avait données au Canada étaient de véritables garanties. Alors oui, il a confiance dans son président. Son président est un gentleman. Il lui a écrit de nombreuses lettres, dont une lettre ouverte que vous pouvez trouver sur son site, hein, afghantimes.com. Nous mettrons tout en lien ensuite après l'émission. Donc, la demande des chrétiens, c'est de pouvoir vivre leur religion dans leur pays, ou de pouvoir partir à l'étranger, si cela se prête, de pouvoir vivre en famille, en communauté avec leurs enfants. C'est pour cela donc qu'ils prient. Ils prient pour leur président, et apparemment, ils ont une excellente opinion de lui. So, my question is, you know, in Europe, we are very shocked because we believed the new government was, you know, a a friendly, Christian-friendly government because of the Americans, you know. It was not a Taliban government anymore. And we see that there is still the Sharia.
You know, Sharia is a part of every Islamic constitution. Whether you believe it or not, it is. They are not going to back off from that. They are not. But you know, we also live in a world where there is, beyond Sharia law, there is a human rights commission, and there is a United Nations under which all these countries, they come together, and there is a mutual understanding between these nations, so that the right of human to exercise their faith in whatever way they want should be granted. And of course, coming back to the Sharia law, whether this government or any other government in Afghanistan, there will be Sharia law. But having Sharia law in a country, I don't think it is time. We now live in the 21st century. We do not live 1400 years ago. We live in the 21st century. And people, human beings, should be given the right to exercise their faith according to the charters, according to the rule of law, the regulation, the thing that have been committed within the United Nations order. I think that should be respected. I think people should be given the right, even in under the Islamic Sharia law, they should allow those things to happen.
Okay. Alors, nous avons demandé à Monsieur Andarias s'il pensait que, enfin, nous lui avons fait état du, un peu du choc de l'Europe qui pensait que le gouvernement avait changé en Afghanistan après l'intervention américaine, que c'était devenu quand même plus favorable à l'Occident et plus favorable aux chrétiens de par l'intervention américaine qui les avait quand même libérés des talibans. Et donc nous lui avons demandé si le fait que le nouveau gouvernement applique la charia était quelque chose de normal. Alors monsieur Andarias, qui connaît quand même la situation, semble dire que oui, la charia est quand même là, il faut pas rêver, l'Afghanistan ne s'en passera pas, mais nous sommes dans un monde moderne. Pour ceux qui auront suivi un petit peu ce fait-là, il reprend un peu les théories de madame Wafa Sultan, qui dit que finalement l'islam pourrait évoluer, et charia ou non, on pourrait très bien s'en accommoder et laisser les chrétiens vivre un petit peu leur foi tranquillement. But do you think that in a total Islamic state, the demi status of the Christians will be, you know, standable, that you can really live in a Islamic country like Afghanistan, or the Islamic people just want to kill Christians?
You know, I would like to say that Christians and Muslims, they did live in the past in peace, and the history tells about that. The only thing is that you have to have an open heart, open mind. Open heart, open mind is what is needed, you know. And I believe that Muslims around the world should respect this, that if a man is not forced, if a woman is not forced, if he or she chooses her life the way it should go, I think that must be respected. Turkey is a country which is an Islamic country. Turkey is a member of NATO. Turkey is probably going to be one of the European Union countries, and Christians live there, and Christians, the faith of the Christians are respected. And you know, there has been instances of Christians put to jail and stuff like that, but those were more confusion kind of things, you know. And even the new Turkish government is, even though more pro-Islamic, but still they allow the Christians to exercise their faith. Even though, you know, in the society itself, they may be rejected, but the law give them protection. Afghanistan, you know, whether it's Afghanistan or any other country, I think people need to be re-educated. People need to open their eyes about these things.
D'accord. Donc nous demandions s'il ne pensait pas que finalement, quoi qu'il arrive, charia ou pas, état moderne ou pas, il s'était un peu dans la nature de l'islam de réduire les chrétiens et les juifs en dimitude et éventuellement, le cas échéant, de vouloir les tuer. Alors monsieur Andreas pense que il y a eu un temps où effectivement dans les pays du Proche-Orient et de l'Orient, du Moyen-Orient aussi, le chrétien et musulman ont vécu ensemble pacifiquement, ça s'est passé effectivement, que certains États, tout en étant islamiques, pourraient très bien protéger les minorités d'autres religions, un peu comme la Turquie, par la loi, même si la société ne les accepte pas bien, ils estiment qu'ils pourraient très bien se suffire à eux-mêmes en termes de communauté s'ils étaient au moins protégés par la loi. So, Mr. Andreas, do you really believe that there is a today with the real actual situation in Afghanistan? Do you really believe that there is a future for Christianity in your country?
I do believe that. As a Christian man, I believe God will have the last say. I believe that you can of course shut up the mouth of a person by force, you know, or torture a person not to say on the camera or on the microphone something, but you cannot control the heart and the mind of the people. You cannot control the heart of the people. You see, what is decided inside is what important. And I believe this is going to explode one day like a lava, you know, like a volcano. It is going to explode. One day there will be. And I have a great faith in God, and I have a great faith in the law. And I have a great faith in the people who are actually working hard to make this happen.
Okay. Alors, nous avons demandé si Monsieur Andreas pensait qu'il y avait un réel futur pour la chrétienté en Afghanistan. Alors, oui, en tant que chrétien, il y croit très sérieusement. Il pense même que on peut torturer un homme, on peut l'empêcher de parler, notamment dans les médias. Ce soir, nous n'avons pas pu avoir un Afghan au téléphone, parce que, ma foi, c'est dangereux pour leur sécurité, c'est sûr. Et il pense qu'on ne pourra jamais vraiment contraindre quelqu'un dans son cœur, que son cœur appartient à Dieu, et que de ce point de vue-là, effectivement, le christianisme peut se développer. So, now we come back to Abdul. He's not the first Christian in Afghanistan who has been taken for a death penalty.
No, actually, in the past, if you read AfghanTimes.com, the old news section, you will find that just as recent as about 2 or 3 years ago, they killed five Afghans, and also just about 2 years ago, the Taliban cut the throat of an Afghan Christian in the Ghazni province, from where I come. My forefathers come from Ghazni. And this has been happening for a long, 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 long time. So it's not from now. Christian suffering in Afghanistan is not a new thing. The only thing is that now it is coming to light for the first time.
Alors, nous avons demandé si c'était bien la première fois qu'il y avait des persécutions contre les chrétiens, et qu'un chrétien était capturé pour être condamné à mort. Non, c'est de loin pas le cas. De nombreux chrétiens ont été déjà mis à mort. Mais il semblerait que ce soit la première fois que cela apparaisse de façon aussi évidente dans la communauté internationale. So, can you, maybe you have an idea why it's the first time it's coming to light?
This is because all the other time the Afghan Christians, they were quiet because of the fear, because of the danger. One of the problems in my society is that if I become a Christian, With my faith, the people not only will look down at me, the people will not only will curse me, the people will not only persecute or even kill me, but the people will curse my family members. You know, in the case of Abdurrahman, it is his own family members which gave him to the police. Why? Because if that family hadn't done that, the rest of the society would have cursed his parents. But you know, how long you can keep quiet? Finally, things are going to come out. And so it began with Abdurrahman.
Alors donc nous avons demandé si nous avons demandé vraiment dans quelles conditions ces choses-là s'étaient passées et vraiment si Monsieur Andreas savait pourquoi ce cas était venu à la lumière. Donc il semblerait que jusqu'ici les chrétiens se soient tenus un peu tranquilles, mais la pression du gouvernement se fait de plus en plus forte et il semblerait bien que Abdul ait été vendu par ses propres parents, lesquels, s'il n'avait pas fait ça, auraient été poursuivis par les autorités et par l'ensemble de la société. Donc si vous êtes chrétien de façon ouverte et publique, votre famille est souvent persécutée. So I have now another question. What is the Afghanistan Christian community waiting from Europe, from Western countries?
The Afghan Christian community in Europe and in America, in Australia, we are with great spirit. We all are praying. We all are in communication. We all hope and pray that God will intervene, that God will give wisdom to our leaders to deal with this matter in a manner that is also dignifying. It is also the matter of dignity of our country. You know, after you translate this, I want to share one thing very wonderful that happened just about 30 minutes ago.
Okay. So, yes, I will translate. Donc, j'ai demandé vraiment ce que la communauté chrétienne d'Afghanistan attendait des pays européens. Et donc, il semblerait qu'il y ait déjà une forte communauté afghane dans différents pays anglo-saxons, occidentaux, et qu'il y a un esprit de communauté vraiment assez puissant. Et tous leurs sentiments sont tournés vers l'Afghanistan avec un grand esprit des lois en ce qui concerne la position des minorités chrétiennes. Et maintenant, il semblerait que quelque chose qu'une nouvelle assez inattendue soit arrivée. So we listen to you.
Yes, one of the most very wonderful that happened to me, the community of what is called the cultural and scholarly community of Afghanistan living in Germany. Mm-hmm. In Germany. They a little while ago through the Skype, they spoke with me and they sent me a letter which I'm going to publish both in the German language. They have printed in the Persian language, in the Dari language, and also I'm going to translate that in English. So the German language they have done, and the Farsi language, that is the Dari language, they have done. English one I will do. And by tomorrow, God willing, or day after tomorrow, I'm going to publish it on AfghanTimes.com. He has requested this group, mm-hmm, under the leadership of this gentleman. Let me go to my computer and give you his name. Under the leadership of this gentleman, has strongly requested, demanded, strongly demanded the immediate release of my brother in Christ, Mr. Abdulrahman. Okay, his name is Mr. Hamid Obaidi. Hamid Obaidi. He lives in Germany.
Okay.
He lives in Germany. And he has written a letter to be published publicly to defend the right of Abdulrahman to choose his religion.
Ok, donc voilà, donc pour nous montrer à quel point la communauté afghane dans le monde est solidaire, il semblerait que viennent de plusieurs pays des différentes lettres pour exiger un soutien des États occidentaux en direction de Abdelrahman. Donc là, il semblerait qu'un monsieur Obaidi qui vit en Allemagne et qui est donc un des principaux représentants de la communauté afghane dans ce pays-là a envoyé une lettre à notre ami Andarias pour justement soutenir la cause de Abdulrahman. So we have some questions. I have a question from John Jenkins in Poland, and he's asking, could the Muslim persecution of Christians be a proof that they truly believe in the faith?
I'm sorry, I really could not understand that question. If you can repeat that for me.
It's a strange question. I think that the meaning of the question is the persecution of Muslim against Christian making change in the faith in Afghan Christian community.
The faith of Afghan Christian community?
Yes. Do you lose people? Do you have more people?
No. In the last 24 hours, there is a news on AfghanTimes.com. Go and read it. The news on AfghanTimes.com. We have received loads of emails from Afghans around the world, and they are asking, can I have a Bible? I want to know more about Christianity. And I have received even two emails in the last 24 hours, two people saying that I want to become Christian. I want to be a bold man like Abdulrahman.
Ok. Alors, la question donc de Monsieur Jenkins de Pologne nous demandait si les persécutions contre les chrétiens avaient une influence sur la foi des Afghans, et il semblerait que ce soit donc vraiment une influence positive. Les Afghans du monde entier sont en train de se convertir, en tout cas à la foi chrétienne, demandent des Bibles, appellent justement Monsieur Andarias pour avoir vraiment une explication du christianisme et éventuellement se convertir. We will pass one record and we come back in 2 minutes, okay?
All right, sir.
See you.
I know the Lord, I know the Lord, oh, I know the Lord, lay his hands on me. I know the Lord, I know the Lord, I know the Lord, lay his hands on me. The Lord laid his hands on me. He healed the sick and raised the dead. I know the Lord laid his hands on me. Oh, I know the Lord, I know the Lord, I know the Lord laid his hands on me. I know the Lord, I know the Lord, I know the Lord laid his hands on me. I know the Lord laid his hands on me.
They fall all day and pray at night.
I know the Lord laid his hands on me. Oh, I know the Lord, I know the Lord, I know the Lord laid his hands on me. I know the Lord, I know the Lord, I know the Lord laid his hands on me.
Oh, wasn't that a mighty day?
Et nous sommes de retour donc pour cette deuxième demi-heure de Bafweb Radio, toujours en compagnie de notre ami Hussein Andarias pour parler un petit peu de la situation des chrétiens en Afghanistan et de notre ami donc Abdelrahman, toujours entre les mains du gouvernement islamique d'Afghanistan, qui voudrait lui faire passer l'arme à gauche, mais il semblerait quand même que maintenant la pression de la communauté internationale, essentiellement les pays anglo-saxons chrétiens, et suffit au moins à lui sauver la vie. Nous retrouvons donc Monsieur Andarias pour d'autres questions. Vous êtes bien entendu invité à poser vos questions via l'interface Skype, et vous pouvez aussi nous envoyer ça par email et intervenir en direct. Je commence tout de suite avec une question donc de Henri Durand de Paris. So we have a question from Henri Durand in Paris. So I just read it at the same time as you. It is said that President Karzai must please public opinion, which wants a Christian convert to be punished. Is it really true that the majority of Afghan people wants the death penalty for Abdulrahman?
Unfortunately, yes, the majority of Afghanistan may. But I'm not saying that all of Afghanistan, so I'm not hopeless. Yes, the majority of Afghanistan do want death penalty for Afghanistan. But that's not a reason for me to give my faith away, you know. In the Bible, in Matthew's Gospel chapter 5, I am building my faith. Jesus Christ in verse 10 says, blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men cast insult at you, persecute you, and say all kinds of evil things falsely on account of me. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. You see? So my faith is on Jesus Christ, who gives these things to me, and I'm not disheartened about it.
Alors, donc, nous avons posé la question de savoir, maintenant qu'Henri Durand nous pose cette question, de savoir finalement quelle est la position du président Karzai qui doit automatiquement un petit peu ménager son opinion publique, et laquelle opinion veut vraiment qu'un chrétien soit puni pour sa foi, et le fait aussi de savoir si la majorité du peuple afghan était favorable à la peine de mort. Alors, il semblerait que oui, ce soit malheureusement bien le cas. L'opinion publique souhaite la mort des chrétiens, mais donc M. Andarias nous dit bien que les chrétiens, d'abord, n'ont pas peur. Il est écrit dans la Bible que bénis sont ceux qui auront à mourir pour le Christ, et puis surtout que ça ne les décourage pas, ils vont quand même conserver cette foi qui est la leur et ne pas se laisser faire. So, I was in Syria last year for my holidays, and I've seen a lot of young Christians who are going away to find a better life in a better country, like USA, yes, like France. Yes. Is it the same case for Christian community in Afghanistan?
You know, we all live in a natural world. Everyone wants to be in peace. Everyone wants to live a little better life. Everyone wants to have some fun with the others. You know, God made this world so that we can have fun, so that we can be free, so that we can love each other, so that we can rejoice. And there is nothing wrong with it, you know, to just go to another country and live there and be mingled with the society and exercise your faith and those kind of things. Yes, also they have the same desires because they are also human beings. But at the same time, as far as I know, Afghan Christians also have been always through suffering, even through their suffering. They have been serving God, they have been serving humanity, they have been serving even our enemies. You won't believe, people who beat me in the past, I love them. I love them, and I always pray for them. Why? Because Jesus Christ, my God, says in Matthew's Gospel, chapter 5, verse 44, says, love your enemies and pray for those who persecute you.
Alors, donc, nous avons posé la question de savoir si on devait regretter le fait que les jeunes Afghans fuient leur pays, comme ça se fait par exemple en Syrie. Donc notre ami M. Andarias nous dit que, ma foi, les Afghans ont bien droit de faire leur vie un peu où ils l'entendent et de vivre leur foi là où ils le veulent. Ce n'est pas finalement un acte de désapprobation de ce qui se passe dans le pays. Les chrétiens, si vous voulez, continuent d'avoir de l'affection pour leur pays et de l'affection pour les gens qui leur ont fait du mal. C'est un témoignage assez beau. Monsieur Andarias dit que les personnes qui l'ont battu jadis, ils continuent de prier pour elles et de penser à elles de façon positive. I believe we have somebody who wants to contact us. I don't know okay. if... Do you hear us?
Yes, I can hear only you.
Yes.
Hello?
Yes, it's Mr. Jenkins.
Yes, hello there. This is Father John Jenkins. This is Father John Jenkins calling from Poland. I'm actually...
Hello, Father.
How are you? I'm just calling from Poland. I'm calling from Poland, and I heard of this story of Mr.
Abdul Rahman
concerning his testimony for the faith in Afghanistan. I would just like to send him a message from a country that has suffered a lot of persecution from the communists in these past centuries.
Yes.
And it especially the blood of Christians that are the seed of Christians, and so that I hope
yes.
he is certainly united with our prayers. We have a witness of many, many different martyrs here also
Thank
in
you.
Eastern Europe, and so certainly with the menace also in Afghanistan and in Islamic countries is also a great chance for the church to have many more martyrs and to thereby increase the number of saints in heaven.
Yes, Father, I thank you for coming, and I thank you for your wonderful message, and I will make sure that I will give this your personal message to Brother Abdul Rahman, will pass it to the Afghan Christians, so that they are stronger in their faith, so that they are stronger. And I realize the persecution that you folks have been through during the communist time. And yes, but we go now. The world is always the same. Persecution is part of life in Christian life. And I praise God for persecution, because as you said, of course, the blood of the martyr is the seed of the church. You are so true, and I thank you for that.
Alors, je vais vite faire une petite traduction. Donc, le père Jenkins est prêtre en Pologne, et donc a vraiment transmis à nos amis chrétiens d'Afghanistan un message d'amitié. Il sait qu'ils ont vécu du temps déjà du communisme, et maintenant sous le gouvernement islamique, qui n'est pas moins dur. Des nombreuses persécutions, que le sang des chrétiens a déjà beaucoup coulé, et M. Andarias était très touché de ce message, et sait aussi que les pays de l'Est ont eu beaucoup à souffrir du communisme, mais il reste toujours aussi positif et nous rappelle que le sang des chrétiens est le sang des martyrs est une semence de chrétiens. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Mr. Andarias, I am young, I am Christian. What can I do for my brothers in Afghanistan? What can I do for Abdul Rahman? I would like to do more.
I think you are doing right now, and God bless you for doing it. And by bringing awareness about him, by bringing awareness about Christian persecution, you are doing a great job. And I would request you to continue to pray for us, continue to pray for Abdul Rahman, his two children, and even his family who rejected him. Continue to pray for them, that God will open their hearts. And I request you to please continue making this awareness. Yes.
Alors voilà, j'ai demandé ce que pouvait faire un jeune homme de 30 ans pour nos frères chrétiens d'Afghanistan. J'ai donc obtenu cette réponse, et que vraiment M. Andarias nous continue à en parler, nous encourage surtout à prier pour Abdul Rahman, qui a donc deux enfants, et à prier pour sa famille qui l'a trahi un petit peu, ce qui est arrivé au Christ lui-même. Mr. Andayas, I really thank you for your testimony. You must know that all the Christian Europe is behind you, behind Abdul Rahman. We will go on your website to have more information, to have more news, and we really say you that we will pray and pray and pray for you, for the Christian brothers, and for Abdul Rahman.
Thank you very much. If you were interested to read my personal testimony also, you can go to hesavedme.com. hesavedme.com. There you will see how much of suffering I have been through when I became Christian, because in Iran I was arrested and I was tortured for 3 days and nights.
Alors oui, donc Monsieur Andreas nous dit justement donc qu'il y a le cas de Abdul Rahman, et puis il y a aussi le sien propre. Nous mettrons en lien son site internet où nous pouvons lire donc en anglais le témoignage de ce qu'il a vécu lui. Il a été torturé pendant 3 jours et 3 nuits. So you are a bit like Saint Paul, who suffered so much for his faith.
I'm not exactly like Saint Paul, but I am a servant of Jesus Christ, and I'm glad that I'm suffering for a good cause.
Alors, il refuse la comparaison avec Saint Paul, mais il se dit servant de Dieu et il est prêt à souffrir pour la bonne cause. We thank you for all what you've done for Jesus Christ, and we hope that we will have the honor to serve him like you did.
Thank you very much.
So, we have a record, and we say really goodbye to everybody in Afghanistan. We pray for the Christian in Afghanistan and in all the world. See you soon.
Thank you very much. The Lord bless you. Bye-bye.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the will of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
chers auditeurs de Bafweb Radio, nous continuons notre émission. Bientôt la deuxième heure, mais nous prenons donc en cours de route l'actualité la plus brûlante, puisque notre envoyé spécial du BAF à Paris, n'est-ce pas, notre ami de Nanterre, Roland Richard, a été l'objet d'une rafle policière alors qu'il se rendait justement sur les lieux des manifestations pour vous amener des sons et des images. Nous n'avons pas de nouvelles en ce moment, mais nous avons donc au bout du fil Francis Richard, un autre baffeur de longue date, n'est-ce pas, dont Roland est le fils, et vous avez donc quelques nouvelles peut-être, Francis?
Alors j'ai le peu de nouvelles que j'ai, c'est que bon, j'ai réussi à le joindre sur son téléphone mobile, mais il était déjà dans le panier à salade et apparemment il pouvait pas trop parler, il parlait à voix un petit peu basse pour pas faire repérer qu'il était en conversation. En arrière-fond il y avait un bruit de personnes qui hurlaient, je pense que c'était des casseurs qui se débattaient pour ne pas rentrer dans le panier à salade. Et puis apparemment il y était depuis un certain temps, parce que il avait envoyé un SMS à ma femme à Paris, et sur ce SMS il précisait qu'il venait tout juste d'être interpellé. Voilà. Et ça, c'était à, attendez que je dise pas de bêtises, à 7h10. Et j'ai dû le rappeler lui-même vers, je sais plus exactement quelle heure, mais en tout cas peut-être vers 7h30. Et ils avaient toujours pas bougé. Voilà. Alors par contre, ce que j'ai pu voir aux informations de 20h sur TF1, c'est qu'il s'est trouvé certainement au mauvais endroit au mauvais moment. C'est-à-dire qu'à la fin de la manifestation de cet après-midi, qui se terminait aux Invalides, il y a eu des casseurs qui s'en sont pris aux étudiants, et non pas aux forces de l'ordre, peut-être les deux après, mais et ils ont commencé à voler des téléphones portables aux étudiants, avant d'entamer la casse proprement dite. Alors c'est assez hallucinant les images que TF1 montrait, et lui m'a dit que le car de police dans lequel il avait été amené se trouvait quai d'Orsay, et le quai d'Orsay se trouve tout près en fait de l'esplanade des Invalides, donc je pense qu'il a été vraiment au mauvais endroit, hein, là.
Voilà. D'accord, ouais.
Voilà ce que je peux dire pour le moment, hein.
Bon, en tout cas, nous, on a essayé effectivement de l'appeler, ça ne répondait pas, on était un peu inquiets. Si quelqu'un qui nous écoute a des nouvelles de ce qui est arrivé à notre camarade, hein, ça fait un petit peu radio libre, hein, libérer nos camarades, ça fait
ben
un
oui.
petit peu... Je veux dire, vraiment, on va créer une fraction pour exiger la libération des employés, des collaborateurs du BAF.
Je ne sais pas s'il a été, comment dire, interpellé avec d'autres, parce que je ne sais pas s'il est allé tout seul ou pas. Ça, par contre, j'ai pas pu. Il a voulu tout de suite abréger et finalement, bon, j'ai pas insisté non plus pour pas qu'il se fasse repérer spécialement, quoi.
En tout cas, si nos auditeurs veulent intervenir sur cette chose-là, si vous avez vu quelque chose, entendu, etc. Moi, je trouve en tout cas assez effarant que ça tourne comme ça, au lynchage et au pillage. Si ça se trouve, la police l'a embarqué pour le protéger, parce que si ce que vous nous dites est effectivement vrai. Mais j'ai pas encore vu les images, parce que donc je suis coincé ici. Mais oui. Ça devient effarant, la situation.
C'était au tout début de votre émission, là, en fait. Hein, vers 20h, 20h10 à peu près. Hein, ils ont montré ces images. Et ce qui était terrible, c'est qu'après, ils ont montré des images où les casseurs, hein, parce qu'on voyait bien que c'était pas des étudiants. Ou alors ce sont des étudiants qui sont devenus casseurs, je sais pas très bien comment qualifier tout ça, s'en sont pris à des voitures, mais gratuitement, là, hein. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à casser les pare-brises, les vitres, à mettre le feu. Quand des pompiers sont intervenus, ça ils ont montré également, les pompiers se sont fait caillasser également. Enfin, ça a l'air charmant, hein. Alors la police n'a pas l'air d'être intervenue tout de suite. Elle attendait, semble-t-il, un ordre. On voyait même un des comment dire, des chefs policiers, si je puis dire, qui était en contact avec un, je pense, un talkie-walkie, et qui ou un téléphone, je sais pas trop, et qui attendait le mot d'ordre. Et puis quand il a eu le mot d'ordre, apparemment tout le monde s'était lancé pour dégager l'esplanade. Voilà.
D'accord.
Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu et que d'autres auditeurs ont pu voir, en tout cas sur TF1. Mais j'étais un petit peu plus motivé parce que justement mon fils devait se trouver dans ces parages-là au moment où il a été interpellé. Voilà.
Oui, en tout cas, c'est un petit peu effrayant. C'est un petit peu nous qui l'avons envoyé au feu, donc il était assez enthousiaste. On espère qu'il lui est rien arrivé. En tout cas, on est tout cœur avec lui.
Ben, écoutez, apparemment, je crois pas qu'il ait reçu de mauvais coups. En tout cas, il n'avait pas l'air.
C'est-à-dire avant d'être au commissariat, mais après, on ne sait pas.
Ben voilà, là, on ne sait pas très bien ce qui se passe après. Hein.
Enfin, il aura sûrement des choses à nous raconter.
Je pense que le fait qu'il n'a pas l'air de s'être débattu, c'est peut-être la meilleure attitude qu'il fallait avoir compte tenu des circonstances. C'est-à-dire que quand vous vous débattez, ben, vous prenez déjà des coups. Et puis après, bah, vous êtes repéré, et puis j'imagine qu'on vous fait pas de cadeau. Hein. D'autant que quand on voit sur des jours précédents, là j'ai pas vu spécialement, mais j'ai vu dans des reportages précédents que certains policiers avaient été quand même salement amochés, je me dis qu'à ce moment-là, bah, les policiers, quand ils tiennent quelqu'un, ils ne sont pas spécialement tendres. Hein.
On comprend qu'il...
Tout en ayant des instructions de retenue, hein.
Oui.
Mais bon.
Et on commence gentiment à comprendre qu'ils deviennent nerveux, parce que c'est clair que ça fait quand même un moment que ça dure, et puis ils en ont pris pas mal sur la figure. Il y a histoire de Cyril Ferrez, qu'est-ce qu'il est devenu? Aux dernières nouvelles, ça allait un petit peu mieux, le syndicaliste sud PTT.
Mais écoutez, j'ai pas vraiment de nouvelles, sinon que j'ai vu justement sur le site là, du BAF qu'il y avait un dépôt de plainte.
Alors, il y a la famille,
l'état de santé,
proprement
dit, je ne sais pas. Ouais. Là, je ne sais pas du tout. Mais par contre, moi, qui suis un peu plus ancien, ça me rappelle mes 68. Parce que moi, j'étais au lycée Henri IV, donc en plein quartier latin, derrière le Panthéon. Hein,
à l'époque où vous écoutiez les Grateful Dead avec les cheveux longs et une chemise à fleurs, c'est ça?
Alors moi, j'avais pas de chemise à fleurs, j'avais pas de cheveux longs. J'ai jamais été accoutré de cette manière-là.
D'accord.
Mais je me souviens d'avoir vu des...
Je vous interromps juste, hein, c'est aussi ce que mes parents essaient de me faire croire. Non, je plaisante.
j'ai vu des policiers qui étaient gardés bien au chaud, puis c'était au mois de mai. Hein. Et quand je dis bien au chaud, c'était vraiment bien au chaud, c'est-à-dire sous le soleil exactement, comme dit la chanson, et qui, une fois qu'ils étaient bien cuits, on les lâchait pour, reconquérir les barricades qui avaient été édifiées dans les rues. Alors vous imaginez dans quel état ils étaient. Hein.
Mm-hmm.
C'était certainement pas extraordinaire.
D'accord. Ouais, bon.
Donc je crois qu'on reprend les mêmes procédés, à l'exception au fait quand même que j'ai l'impression que les policiers étaient dehors, hein, d'après les images que j'ai vues sur TF1. C'est-à-dire qu'ils attendaient un petit peu le mot d'ordre, hein, en fait.
Donc vous ne pensez pas qu'ils les aient chauffés à blanc ou qu'ils les privent de nourriture pendant plusieurs jours pour qu'ils se jettent comme
non,
ça sur les étudiants pour les
dévorer? Non, mais je crois que le gros problème, c'est que l'affaire Ferrez... est un petit peu symptomatique, c'est-à-dire que on craint la bavure entre guillemets, donc on retient les troupes et puis vraiment quand ça tourne vilain, on est bien obligé de les lâcher parce que sinon ça devient vraiment grave. Mais je crois qu'ils ont beaucoup laissé faire là. Hein.
Bon, moi personnellement, en tout cas de la Suisse, on n'y croit plus une seule seconde à une revendication politique réfléchie. C'est une bande de...
Une
bande de petits cons qui veulent foutre le boxon et puis salut, ça s'arrête là. Donc il faut leur tomber dessus à bras raccourcis. Et si la police le fait pas, ben c'est aux citoyens de le faire.
Ouais.
Enfin, j'imagine pas 5 minutes un truc semblable en Suisse. Il y a eu de temps en temps des micro-tentatives un petit peu ridicules de jeunes crétins qui chantaient l'international. Mais c'était relativement vite réglé.
J'ai connu une seule chose. Ouais. Alors, c'est assez ancien. J'étais étudiant ici. Ça s'est passé au comptoir suisse.
Ah oui.
C'est-à-dire que le comptoir suisse a été attaqué par la Ligue marxiste révolutionnaire d'ici.
C'était quand ça?
Et ça, c'était dans les années 70.
Alors, c'était quoi, Lausanne bouge?
Je ne sais pas dire quelle année. Et puis, ils avaient fait des dégâts. Hein,
c'était quoi, le Lausanne bouge?
Pardon?
C'était Lausanne bouge? C'était à Lausanne?
Non, c'était du temps, je ne sais pas si ça existe encore, le journal s'appelait La Brèche.
D'accord.
Et puis, c'était des. Un petit peu l'équivalent des JCR en France, c'est-à-dire des jeunesses communistes révolutionnaires, c'était un petit peu la même chose. Mais ici, ça s'appelait la LMR.
D'accord.
Voilà. Et pourquoi il s'en était pris au comptoir suisse, alors là, je m'en souviens même plus. Je vais vous dire.
Je le savais seulement. C'est quand même étonnant ce besoin de détruire.
Oui, mais alors ça, je pense qu'il y a un côté. Je trouve que ce sont les enfants gâtés qui cassent leurs jouets. Hein. Là, c'est pas leur jouet, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Alors peut-être parce que maintenant je vis en Suisse et donc je suis un petit peu détaché de la chose. Et puis je trouve que c'est complètement aberrant, quoi. Et puis moi, je trouve que de plus en plus. Plus les choses avancent, plus j'ai le sentiment que le CPE, ce n'est qu'un prétexte. Et maintenant, d'ailleurs, alors que le CNE avait été adopté puis qu'il ne faisait pas trop de bruit, puisque ça fait, je crois, maintenant 7 ou 8 mois qu'il est en route, tout d'un coup, le Parti socialiste, y compris aussi les étudiants, les lycéens, les syndicalistes, s'insurgent contre ce contrat, alors que personne n'avait bougé il y a 7-8 mois. Mmh. Et le CNE est à peu près l'équivalent du CPE pour les plus de 26 ans, et embauché par les entreprises de moins de 20 personnes. Donc on voit bien que tout ça est très artificiel. Enfin, pour ma part, je pense que c'est ça. Hein.
D'accord. Ouais, en tout cas, la situation a l'air un peu chaotique, et puis ça se tire dans les pattes à droite ou ailleurs. La France, franchement, là, bof, quoi. Bien, écoutez, on va se passer un petit disque, et puis oui. Je vous récupère tout de suite, hein.
D'accord.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Into your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better
to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop.
Alors voilà, nous sommes de retour, donc toujours avec Francis Richard, dont le fils est en prison, n'est-ce pas, victime de sa charge de journaliste libre et indépendant. Alors écoutez Francis, on va vous laisser pour ce moment, on imagine que vous avez envie d'avoir des nouvelles un peu plus fraîches de Roland, et on vous rappelle un peu plus tard pour savoir ce qu'il en est, ça vous va ?
D'accord, parfait.
En tout cas, on vous souhaite bonne chance, on vous remercie d'être intervenu, et puis on souhaite que tout ça s'arrange au plus vite et que finalement ils nous reviennent en bonne santé. On en a encore besoin, hein, c'est évident.
D'accord.
À tout bientôt.
À plus tard, alors.
Alors voilà, ce soir nous recevons aussi Michel de Poncin, qui est un autre habitué donc du BAF. Donc
bonjour.
Ce soir, vraiment, toute la famille est là. Bonsoir Michel, comment allez-vous ?
Ça va très bien, tout va bien, ça va très bien pour moi, très mal pour la France, mais tout va bien.
D'accord. Donc ce soir, nous avons eu une émission assez chargée, nous avons discuté donc de ce cas terrible de ce chrétien afghan qui est menacé de la peine de mort. Ce n'est de loin pas le premier, mais il semblerait que maintenant la communauté internationale réagisse un petit peu. Et puis nous sommes aussi rattrapés par l'information française, le CPE. Ça va apparemment de mal en pis. Francis nous disait tout à l'heure qu'il avait vu à la télévision des jeunes se ruer sur les étudiants pour leur piquer leur téléphone portable et leur porte-monnaie, ce genre de choses. La police semble assez fatiguée par un mois déjà de lutte. Il y a ce syndicaliste qui est toujours dans le coma. Il y a toujours plusieurs policiers qui sont toujours blessés. Alors, quelles sont vos nouvelles à vous, Michel ?
Pour le chrétien afghan, j'ai eu des nouvelles. Il semble qu'il prenne un prétexte en disant qu'il n'a pas tout à fait le mental qu'il faut, et de ce fait-là, il échapperait à la peine de mort. Bien. Alors évidemment, c'est pas formidable comme nouvelle, parce que ça veut dire que la charia existe bien, mais ça veut dire tout de même que la communauté internationale a obtenu cette espèce de petit subvertus, quoi, voilà, pour épargner la peine de mort à ce chrétien.
Donc
alors je sais pas si
l'Afghan que nous avons eu ce soir nous a dit qu'effectivement c'est la famille qui avait livré ce chrétien pour ne pas être poursuivi elle-même, c'est la famille qui a livré ce chrétien Abdul Rahman pour ne pas avoir d'ennui, et apparemment maintenant elle plaide la folie pour essayer de lui sauver la peau.
Voilà, peut-être. Et alors voilà, il faut prier le bon Dieu pour que ça s'arrange.
D'accord, ouais. Mais bon, c'est quand même assez effrayant. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le BAF avait rédigé il y a quelque temps un article. Vous savez sans doute, Michel, que la charia est inscrite dans le droit français.
Ah non, là je ne... C'est-à-dire, elle est inscrite dans le droit français par l'intermédiaire de la communauté musulmane qu'a créée Sarkozy.
Non.
C'est possible, non ?
Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est pour le territoire d'outre-mer de Mayotte. Enfin, qui est aussi un département.
Ah, c'est possible.
Il y a toute une distinction spéciale. Il y a un préfet qui nomme des cadis, et les Mahorais musulmans peuvent à choix être sous le droit musulman français ou sous le droit français tout court. Et donc, il y a une résolution de 1939 qui a codifié ça. C'est les résolutions les décrets de la justice indigène. Et alors, la seule petite chose que la France a enlevée à la charia, parce que c'est l'application directe de la charia, c'est la lapidation. C'est-à-dire même pas la peine de mort. Donc vous pouvez être condamné à mort, mais ça peut être cassé ensuite par un tribunal d'abord d'instance musulmane, et ensuite au-dessus un tribunal de cassation. Mais vous pouvez encore être aujourd'hui condamné à mort à Mayotte si vous êtes un Mahorais musulman mais de nationalité française.
Mais là, c'est très intéressant ce que vous me dites. Ça veut dire que j'ai pas toutes les informations, et ça ne m'étonne pas dans l'océan des informations. Mais cette disposition, selon vous, elle remonte à quelle date ?
Alors, ce serait il y a deux décrets. Il y a un décret, enfin il y en a trois même. Il y a un décret de 34, un autre de 1939, donc qui définissent la justice indigène. Et puis en 64, il y a eu une commission de gestion des territoires des Comores. À l'époque où
mais
on
c'est...
pensait que Mayotte allait retourner aux Comores. Et tout ça a été donc défini. Alors maintenant, j'en ai entendu parler en fait, parce que maintenant au Sénat ils en discutent, donc au Sénat français, parce qu'ils trouvent quand même énorme que la charia soit protégée par la loi française. En fait.
Mais remarquez, c'est une information extrêmement intéressante.
Je vous donnerai le lien, parce qu'on a donc un article qui a eu pas mal de succès.
Je ne la connaissais pas. Alors sans ça, concernant les événements, j'étais dans Paris aujourd'hui et évidemment c'est assez impressionnant de voir le développement policier. Je n'ai pas vu les manifestations, mais le développement policier était considérable, surtout sur la rive sud de la Seine. Je réfléchis, je confonds toujours la rive sud et la rive nord. Sur la rive sud de la Seine, et les ponts pour passer sur la rive nord étaient très gardés par un déploiement policier considérable, ce qui veut dire qu'ils voulaient éviter que les émeutiers passent sur la rive nord de la Seine. Voilà. Et évidemment, je comprends que la police soit fatiguée, comme vous le disiez, parce que j'ai vu passer des cortèges de camions remplis de policiers qui couraient dans tout Paris. J'ai vu passer 3 ou 4 cortèges donc de policiers qui couraient de tous les côtés. Et je sais que sur l'esplanade des Invalides, il y a eu des batailles assez considérables entre émeutiers eux-mêmes. Voilà. Ce sont les informations que j'ai eues.
Ah, ils se taperaient dessus les uns les autres.
Ils se seraient tapés dessus, alors je ne sais pas qui tapait sur qui. Bon.
C'est quand même
donc, voilà, donc c'est une situation tout à fait incroyable. Il est certain que ce sont des manifestations montées par l'extrême gauche, mais ce qui veut dire que l'extrême gauche est très très bien organisée pour arriver à monter de telles manifestations.
Alors, la semaine dernière et hier encore, nous avons eu donc plusieurs jeunes universitaires français, dont un de Toulouse, des membres de l'association UNI, et puis donc Roland Richard, hein, le fils de Francis,
oui,
qui est à Nanterre.
Oui.
Et bon, alors, au début, ils étaient vraiment pour la solution pacifique. Ensuite, on a vu que sur le terrain, en tout cas à Toulouse, certains jeunes ont réussi à libérer, entre guillemets, leur université. Il y a une centaine de recours au niveau juridique qui ont été faits. On a vu que certains ont été gagnés à Grenoble, mais il faut encore que le président demande que ce soit appliqué, donc il faudrait appeler la police. On a vu par exemple pour la France, la TF1 à Paris, une haute école spécialisée dont les professeurs avaient appelé la police, qui n'est jamais venue. Ils ont dû finalement louer les services d'une compagnie gardiennage qui finalement a détalé comme des lapins quand les casseurs sont arrivés.
Oui,
alors,
oui.
On est dans une situation, on sent quand même très clairement, ce qui ressort maintenant de plus en plus, c'est qu'on est face à une bande de jeunes qui veulent casser parce que c'est amusant.
Alors, attendez, il y a deux catégories, autant que je puisse analyser, parce que c'est extrêmement difficile. Vous avez les organisations syndicales et les partis d'extrême gauche qui ont poussé à la grève, aux manifestations. Et vous avez la gauche un peu plus classique, comme le Parti Socialiste, qui a emboîté l'extrême gauche. Voilà. Je crois que c'est parti de là, avec évidemment le désir de montrer que rien ne marchait, etc., le désir des manifestations habituelles. Et puis, en plus, effectivement, il y a eu les armées de casseurs, parce qu'il est certain qu'il y a de véritables armées de casseurs qui existent en France, qui sont organisées, dirigées, etc. Parce que pour détruire un bureau de tabac ou un commerce quelconque, le détruire de fond en comble, il faut vraiment bien être très armé, très dirigé et très organisé. Alors je crois que ce sont deux forces distinctes, mais qui probablement se sont rejoints quelque part.
Alors, finalement, pour quelles raisons le Parti Socialiste aurait emboîté le mouvement? Est-ce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être
assimilés? Je crois qu'il a emboîté le mouvement parce que de peur d'être débordé sur la gauche, quoi. D'accord. De sorte qu'il a emboîté le mouvement, bien que je crois que ça ne correspondait pas forcément à son désir. Mais là, dans la loi absolue qu'il faut toujours être un peu plus à gauche que d'autres, il a emboîté le mouvement, je crois.
D'accord.
Également à l'Assemblée, puisqu'il y a eu des manifestations à l'Assemblée assez bruyantes, quoi. Mais alors, vous avez également une autre chose qui est extrêmement grave, parce que là, vous avez parlé d'universités qui ont voulu résister, donc très bien, mais il y a un certain nombre d'universités où les présidents d'universités eux-mêmes ont organisé le vote pour savoir si on veut arrêter l'université, ce qui est absolument intolérable, parce que soumettre le fonctionnement d'une université à un vote d'émeutiers, c'est vraiment tout à fait illogique et ça ne correspond pas du tout aux fonctions d'un président d'université. Je crois que si on avait un vrai pouvoir, il devrait licencier ses présidents d'université, mais je ne sais même pas comment juridiquement ils peuvent faire pour ça.
Mmh. Ouais, c'est ça, c'est que finalement ils ont une liberté qui est assez particulière, ça doit venir du Moyen-Âge où les universités n'étaient pas sous la coupe juridique de l'État.
Voilà, alors attendez, parce que en fait, les universités sont sous la coupe juridique de l'État, mais comme les auditeurs savent ou ne savent pas, comme le droit français est un conglomérat gigantesque de lois extrêmement peu claires et peu obscures, je disais que peut-être, si le pouvoir veut licencier un professeur d'université, il ne peut pas du tout le licencier du jour au lendemain, que très probablement il y a des garanties, etc., comme ce sont des fonctionnaires, et donc très probablement le gouvernement n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut, sauf des recours juridiques extrêmement compliqués. Mais vous avez raison de dire qu'au Moyen-Âge, les universités étaient libres, et je crois que le pouvoir royal n'avait pas tant de pouvoir sur l'université que actuellement le pouvoir actuel a beaucoup de pouvoir sur les universités, et ça remonte à Napoléon, hein, puisque l'université napoléonienne était soumise au pouvoir, mais lui, Napoléon, faisait ce qu'il voulait certainement avec l'université. Le pouvoir actuel, comme je disais, est soumis à une inondation inextricable de lois, donc tout en ayant le pouvoir absolu théorique sur les universités, je ne suis pas sûr qu'il puisse licencier un universitaire, un président d'université, même pour faute professionnelle grave, parce que j'estime qu'organiser un vote, soi-disant même démocratique ou pas, mais un vote dans les locaux de l'université pour décider de la poursuite des cours, j'estime que c'est une faute grave.
D'accord. Ouais. Alors bon, maintenant on va quand même aussi un peu se profiler en demi-teinte, les élections présidentielles de 2007, gauche, droite, et puis il semblerait qu'il y ait plusieurs clans, en tout cas dans la droite. Quelle va être la réaction, selon vous, de Sarkozy? Est-ce qu'il va partir? Parce que bon, il risque bien de devoir remplacer son collègue Villepin si celui-ci démissionne. Donc, je veux dire, s'il devient Premier ministre dans la situation actuelle, il risque bien d'être cuit. On sait que rarement un Premier ministre a été élu président juste après avoir été Premier ministre. Est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va rester et s'enferrer dans cette situation qui quand même le mouille grandement, parce qu'il fait quand même encore partie de son gouvernement?
Alors vous savez, c'est le grand point d'interrogation. Tout ça, c'est des combines qui nous dépassent complètement. Ces deux personnages dépensent certainement beaucoup d'argent qui nous appartient pour réfléchir à leur combine personnel, donc effectivement il doit y avoir des tas de calculs. D'abord, s'il part, il perd une énorme fraction de sa puissance, puisque sa fraction en tant que ministre de l'Intérieur, il a une puissance considérable pour l'organisation des élections, donc il perd ça. Il perd évidemment la richesse adjacente qui sont tous les membres du cabinet, etc. Bien. Alors évidemment, à ce moment-là, il entre dans l'opposition, ce qui est plus peut-être favorable à certains égards, mais c'est très difficile puisqu'il est président de l'UMP, donc s'il rentre dans l'opposition, normalement, il devrait renverser le gouvernement. Bon, alors à ce moment-là, s'il renverse le gouvernement, en effet, ce serait lui peut-être qui serait Premier ministre, et en effet, à ce moment-là, on rentrerait dans le calcul que vous venez d'énoncer, qu'à ce moment-là, peut-être qu'il verrait ses chances à l'élection présidentielle s'effriter. Alors, vous savez, ce sont des calculs terribles qu'il doit faire, et comme je le disais tout à l'heure, ils le font avec notre argent et les membres de leur cabinet. Bon, mais enfin, ça, c'est l'usage, malheureusement.
Parce qu'il y a aussi le risque que, donc, Villepin trouve un arrangement, et il pourrait bien représenter une forme de candidat du centre-gauche de droite, disons, le seul espoir d'une gauche déjà perdante contre un Sarkozy qui passe pour une réincarnation d'Adolf Hitler. Il y a quand même...
Alors écoutez, ça peut être une solution. Je ne crois pas que Villepin va retirer le CPE, je ne crois pas, mais il est en train de le vider tout doucement de sa substance.
C'est ça, il va l'accommoder, bon, peut-être.
l'accommoder, c'est-à-dire en fait le vider carrément de sa substance, parce que sa substance essentielle, c'était le droit de licencier sans donner d'explication. Ce qui est, je crois, le droit légitime d'un patron. Parce que finalement, j'ai toujours dans l'idée que si un patron engage un salarié, quel que soit le niveau, c'est que ce salarié lui convient, sans qu'il ait forcément à dire que pourquoi il lui convient. Vous savez, il y a la fameuse phrase de Montaigne avec son ami La Boétie en disant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Vous savez, il a perdu La Boétie très jeune, etc. Bien. Eh bien, je crois que lorsqu'un patron prend un salarié, eh bien, c'est parce qu'il lui convient. Bon, il prend le risque de ce salarié, et puis quand il se sépare de ce salarié, ben, ça ne lui convient plus. Voilà, c'est tout. Et de même, quand un salarié quitte son patron, ben, c'est parce que le patron ne lui convient plus. Alors, tout le monde est très étonné de cette faculté de licencier sans donner d'explication. Moi, ça ne me choque pas particulièrement. Bien. Et Villepin est en train de justement de reculer sur ce point qui était tout de même l'aspect un petit peu essentiel de son projet. Ce n'est pas que je sois favorable à 100% à son projet, qui était au fond un petit projet par rapport à l'énorme problème, mais il avait tout de même le mérite d'essayer de contourner d'une certaine façon le code du travail, parce que je rappelle que dans les raisons du chômage insensé dont souffre la France, le code du travail, avec ses milliers et milliers, peut-être millions de contraintes, joue un rôle tout à fait considérable. Je rappelle qu'aux États-Unis, où les contraintes sont bien, bien moins fortes, il n'y a que 4 ou 5% de chômage. Et 4 ou 5% de chômage, ben c'est le chômage frictionnel habituel pour les gens qui changent de résidence, qui veulent changer d'emploi, etc. Donc, on peut dire qu'il y a le plein emploi actuellement en Amérique, avec un effet absolument extraordinaire, c'est que maintenant les salaires, ou tout au moins les avantages qu'on donne aux salariés, augmentent pas mal. C'est-à-dire que les firmes gâtent leurs salariés pour essayer de les garder. Il y a par exemple des sociétés qui ouvrent des crèches pour les personnes qui ont des enfants, qui
ouvrent des services. C'est les sociétés qui fonctionnent bien. On voit par exemple à Google, il y a des bars, des piscines, etc. pour les employés. L'économie américaine a quand même de grands aspects extrêmement libéraux. Un employé peut changer une dizaine de fois de travail dans sa vie. Disons, nous, en Suisse, où on a un modèle qui est encore relativement conservateur de ce point de vue-là, il y avait quand même la paix du travail. Je veux dire, un homme pouvait honnêtement gagner sa vie en gardant le même travail. Maintenant, c'est en train de changer assez vite parce qu'on s'adapte à la nouvelle économie. Mais je ne pense pas que l'ultralibéralisme américain soit une forme de panacée. Il y a quand même énormément de pauvreté, il y a quand même beaucoup d'immigration illégale qui servent tout le marché de l'architecture sur la côte ouest et concurrentielle parce qu'on fait travailler des illégaux à 6 dollars de l'heure.
Écoutez, il y a peu de pauvreté aux États-Unis et je vous assure que d'après les renseignements que j'ai, un pauvre américain est bien plus riche qu'un chômeur français. Alors évidemment, il est considéré comme un pauvre américain parce que, comme l'économie progresse énormément, le niveau de vie de tout le monde augmente et il est pauvre américain, mais il y a beaucoup de pauvres américains qui ont 2 voitures dans leur garage. Hein, bien. Mm-hmm. Et donc, il n'y a pas tellement de pauvres américains. Mais vous parliez de la Suisse, mais je crois savoir qu'en Suisse, il n'y a presque jamais de grève, même jamais.
Oui, disons, en Suisse, il y a eu des grèves il y a pas mal de temps, dans les années 30, assez chaud d'ailleurs. Puis depuis, il y a eu une forme de convention entre l'État et les syndicats. Les syndicats ne sont pas spécialement développés. Il n'y a pas une culture comme ça de l'extrême gauche. Malheureusement, il y a une extrême gauche qui se développe de plus en plus, mais de façon un petit peu utérine dans la gauche, chez les Verts et chez les socialistes. Mais en général, bon, je suis pas un spécialiste de la question, et d'ailleurs, si quelqu'un nous écoute et connaît mieux ce sujet que moi, je serais effectivement ravi qu'il nous appelle. Hein. Je rappelle que l'émission est aussi pour vous, chers auditeurs, et vous pouvez intervenir à tout moment. Donc, nous, en tout cas, il y a ce qu'on appelle la paix du travail, c'est que, par exemple, les trains, les PTT, ce genre de choses, ne sont pas perturbés, et qu'il y a une obligation de la part du patron d'aller écouter un petit peu ce qui se passe. Mais dernièrement, il y a eu une grande grève chez Swiss Metal, Mais bon, apparemment, c'est une crispation des syndicats de gauche qui ne comprennent pas qu'il y a une adaptation à faire. En Suisse, on est quand même un peu inquiet parce que l'économie change. On a tout d'un coup des directeurs de banque qui sont payés 24 millions par an. Ce qui est un franc suisse, donc c'est à peu près, je sais pas, 18 millions d'euros par an, ce qui est quand même un petit peu honteux, quoi, carrément scandaleux. Et puis, c'est vrai que la banque a eu d'excellents résultats, mais lui-même en tant que, c'est pas forcément une tête. Et c'est un petit peu délicat, donc je veux dire, on sent gentiment que la classe moyenne est en train gentiment de se faire écraser. On a une classe supérieure qui devient vraiment de plus en plus riche. Et des gens qui deviennent un peu de plus en plus pauvres. On a une immigration qui est peut-être un petit peu mal gérée aussi, il faut le dire. Et on a beaucoup plus d'étrangers qu'en France. On a quand même 20%, 22% maintenant.
Là, vous me contredisez énormément.
Mais disons, la France, si vous voulez, a beaucoup d'étrangers naturalisés. Bon, déjà, vous avez un empire.
Parce que...
Donc nous, peut-être la présence étrangère est moins visible, mais en termes de légalité et de nationalité, il y a quand même deux fois plus qu'en France.
Voilà. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que pour acquérir la nationalité suisse, c'est assez difficile, et même qu'il faut, je crois, un vote de la commune dans laquelle on est établi.
Alors ça dépend où.
Ça dépend où. Parce que j'ai un Français qui m'est proche d'ailleurs, qui veut se faire naturaliser suisse, et ce n'est pas évident du tout, tandis qu'en France, on a naturalisé, j'allais dire, à tour de bras, de sorte que lorsqu'on vous dit qu'en France, il n'y a que 9% d'étrangers, on ne tient pas compte de tous les étrangers qui ont été naturalisés récemment. Alors donc, je crois que les comparaisons sont assez difficiles à faire dans ce domaine, mais il est certain que la culture de non-grève dont on m'avait parlé et que vous confirmez en quelque sorte, joue un grand rôle dans l'enrichissement des Suisses, parce qu'en France, si on totalise le nombre de journées de grève perdues, je ne sais même pas si quelqu'un peut le faire même avec beaucoup de statistiques, mais en particulier par exemple au chemin de fer, au PTT et chez tous les fonctionnaires, la totalité des journées de grève perdues est tout à fait considérable.
Ça, oui, c'est assez effrayant, je veux dire, en France.
C'est assez effrayant. Alors, il y a des économistes qui disent tant mieux, parce qu'au fond, ces fonctionnaires, plus ils travaillent, plus ils font de mal. Mais quand c'est les chemins de fer qui font grève, je vous assure que quand on voit toute la couronne autour de Paris, toutes les personnes qui viennent à Paris, soit pour travailler, soit pour leur commerce, soit pour autre chose, qui sont obligés de prendre le RER, vous savez, qui dépend de la SNCF, etc., on peut dire qu'un jour sur deux, ils ont des problèmes, ça m'a été dit couramment. Dans le métro, il n'y a pas trop de problèmes, je circule beaucoup en métro, j'ai jamais eu de vraiment problème, sauf un ou deux jours par an.
Ce sont des robots qui conduisent, non ?
Non, il y a tout de même, mais il y a moins de grèves dans le métro, probablement que dans la SNCF, mais la SNCF, ça touche toute la couronne de Paris, et la couronne de Paris, c'est 10 millions d'habitants qui viennent travailler à Paris, se faire soigner, faire les choses qu'ils veulent faire, et ils souffrent beaucoup des grèves à répétition, et de même dans les grandes villes, Marseille, Lyon, etc., les transports en commun font souvent en grève. Bon, alors ça, c'est une déperdition, parce que là, ils sont utiles, il y a des fonctionnaires inutiles, mais ceux-là, tout de même, ils font tourner les trains, et donc, ça, c'est une déperdition de richesses absolument considérable, quoi.
Mmh. Oui, ben franchement, on est un petit peu surpris, en tout cas en Suisse, de voir l'évolution un peu. La Suisse a pris le parti de laisser un peu de la bride sur le coup des patrons. En général, ça marche, et si on les grève pas trop d'impôts, tout le monde s'en tire. Je veux dire, il y a une chose qui est rarement évoquée, c'est le coût des grèves. Et finalement, oui, généralement, c'est 20% de toute la faille. Il faut encore licencier beaucoup plus de monde après. C'est quand même assez...
C'est énorme. Et le coût des casses qui viennent de se passer à Paris, c'est énorme, parce qu'il y a des commerces cassés. Eh bien, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui connaît ça, mais d'ailleurs, tout le monde peut imaginer. Et quand vous avez une brasserie complètement dévastée, vous avez constatation des assurances, vous avez... arriver des architectes, vous avez délai pour faire des travaux. À mon avis, c'est 3 ou 4 mois de délai avant que la brasserie soit opérationnelle. Et si c'est une brasserie qui emploie 10 ou 15 personnes, c'est 10 ou 15 personnes qui sont au chômage technique, quoi. De sorte que les dégâts faits par ces événements sont considérables. Et alors là, c'est pas des dégâts de grève, c'est des dégâts de casse. Hein.
D'accord.
De sorte que la casse qu'il y a eu en France pour les banlieues il y a 3 mois et puis maintenant pour ces événements, ben, je ne sais pas combien ça a coûté. Personne peut évidemment imaginer. Mais alors je voudrais revenir à un point dont vous parliez tout à l'heure, des salaires de certains grands patrons. Je crois que là c'est un phénomène assez général dans le monde. Mais vous savez, ce n'est pas étonnant du tout. Vous aviez Jacques Coeur, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jacques
Coeur.
Oui,
bien sûr. Ouais.
Financier du roi Charles VIII, je crois, ou quelque chose comme ça. Eh ben, c'était le grand négociant et banquier de l'époque, puisque négoce et banque étaient un petit peu mélangés. Eh ben, il avait fait une fortune absolument gigantesque. Je crois que le succès mérite la fortune. Si vous comparez les salaires de ces dirigeants aux salaires des joueurs de football ou des pilotes de Formule 1, ben vous savez, je crois que c'est assez comparable.
Mais enfin, vous voyez, je veux dire, la Suisse a vécu longtemps avec, y avait quand même un aspect très démocratique, voire un peu égalitariste. Je vous donne un exemple dans l'armée suisse. L'uniforme du chef de l'armée et celui du simple soldat, à part quelques traits sur les patelettes, c'est exactement le même. Donc il y avait un côté justement assez à l'échelle humaine. Je veux dire, j'ai connu des gens qui étaient dans la banque, et je veux dire, les directeurs de banque avaient peut-être deux fois le salaire d'un cadre ou d'un guichetier, tout dépend un petit peu des succursales, mais par exemple, dans les cantons, dans les petits cantons en Suisse, c'était bien, c'était effectivement pas mal, mais c'était à échelle humaine quand même. Et on s'aperçoit que maintenant, on a un développement, si vous voulez, en Suisse, on a vraiment des super entreprises. On a des entreprises comme Swatch, Nestlé, UBS, les plus grandes banques du monde, les plus grands pharmacologues. C'est vrai qu'il y a un côté assez libéral au niveau fiscal qui fait venir du monde. Et puis on a une tradition de grandes entreprises suisses. Et tout d'un coup, ces super salaires arrivent exactement en même temps avec une dégradation assez rapide de la situation financière de la classe moyenne, où tout d'un coup, ça devient assez serré pour avoir du boulot. Les années 70, les années 80, je veux dire, tous les Suisses étaient riches. Et par rapport aux autres pays, bon, la vie a toujours été chère, mais les salaires étaient vraiment bons, et on était vraiment à l'aise, on avait un système qui nous protégeait bien, et petit à petit, on sent qu'il y a un libéralisme, alors je sais que vous l'aimez, mais il commence gentiment à serrer, à inquiéter pas mal de monde, et en même temps, on a tout d'un coup des grandes banques, je veux dire, être engagé dans une banque en Suisse, il y a pas longtemps, il y avait 30% de la population active qui travaillait dans une banque, et c'était pratiquement plus sûr que de travailler à l'État. Hein, autant au niveau de la protection qu'au niveau de la sécurité du travail. Et maintenant, ça n'existe plus. Il y a eu, dans les années 90, des manifestations. Les banques commençaient à mettre les gens dehors. Et tout d'un coup, on apprend 8 milliards de bénéfices nets par an pour une seule banque. Enfin, des trucs absolument effarants. Bon, ça, c'est aussi l'Europe qui nous a fait énormément grimper. Parce que dès le moment où la zone euro s'est installée, tout le monde a mis son argent au chaud chez nous, ça c'était aussi un peu une chose. Mais je veux dire, on sent vraiment qu'en même temps qu'arrive ce système un petit peu à l'américaine, de grosses entreprises avec de gros bénéfices, des super profits et des super salaires pour les super cadres, tout d'un coup, tout le reste en dessous s'effondre. La considération de l'employé n'est plus du tout la même. Et puis, on cherche de plus en plus à exploiter gentiment, hein, c'est pas comme dans certains autres pays, mais à exploiter gentiment le travailleur et à ne plus l'élever comme on voulait le faire autrefois. Parce que la Suisse, disons, s'était réveillée de pauvre et tout d'un coup était devenue assez riche, donc il y avait vraiment une volonté de monter tous ensemble. Et tout d'un coup, là, il semblerait que ce ne soit plus le
cas. Alors là, je ne sais pas, vous me donnez des informations intéressantes, là, je veux dire, je ne peux pas me prononcer. Pour nous, Français, la Suisse fait encore, et peut-être, je crois, légitimement, l'image d'une société assez riche dans tous les niveaux. Mais là, peut-être que je me trompe. Mais alors,
la richesse va augmenter, mais pour 10% de la population. Oui. On va devenir insolemment riche pour une petite partie de la population.
Oui. Oui, mais alors je ferai remarquer, Adrien, que la population la plus riche diffuse son argent inévitablement vers d'autres échelons. C'est toujours comme ça, hein, parce que je lisais par exemple que dans Oui, je crois que c'était à Hong Kong, que le marché des voitures de luxe, des Ferrari, etc., augmentait beaucoup, je crois. Mm-hmm. Et on disait parce qu'il y a des financiers très riches. Bon, mais je dirais ces financiers très riches d'Hong Kong qui achètent des Ferrari, je sais pas très bien où ils vont à Hong Kong avec leurs Ferrari, parce que c'est fini. Ils doivent aller quelque part. Je dirais, ça développe les affaires du concessionnaire de Ferrari, du mécanicien de Ferrari, des gens qui s'occupent de Ferrari. Alors évidemment, leur richesse augmente peut-être moins vite que celui du financier très talentueux, etc., etc. Mais j'ai l'impression tout de même que la richesse se diffuse. Maintenant, alors, il y a un autre aspect que vous avez mis en lumière qui, évidemment, est un peu général dans tout le monde occidental, c'est que maintenant, l'économie n'est plus du tout cloisonnée, parce que j'ai connu comme d'autres quoi le temps où l'économie était complètement cloisonnée, donc en particulier l'économie de la Suisse, et effectivement maintenant l'économie n'est plus cloisonnée. En effet, la gestion des firmes a changé, mais pas simplement en Suisse, partout dans le monde la gestion des firmes a changé. Avant, quand on entrait, je suppose qu'on entrait chez Nestlé, on n'en sortait pas jusqu'à sa retraite. Mm-hmm. Maintenant, je suppose que si on entre chez Nestlé, je connaissais un ancien directeur de Nestlé qui est mort malheureusement et qui était extrêmement intéressant. Un ancien directeur général de Nestlé, il était directeur général de Nestlé pendant 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Et ben, il me disait évidemment rien ne bougeait, mais maintenant, quand je l'ai vu, il m'a dit mais depuis 10 ou 15 ans, tout bouge tout le temps chez Nestlé. Alors là, évidemment, on entre dans une période où effectivement les affaires deviennent assez incertaines pour les cadres, pour tout le monde. C'est un fait, et la Suisse ne doit pas y échapper, probablement.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives comme le CV anonyme? Je crois que ça vient d'être voté maintenant en France.
Alors écoutez, je ne sais pas si c'est voté dans d'autres pays. D'abord, c'est pas tout à fait voté, c'est organisé. Je ne sais pas exactement quel est le statut juridique actuel. Bien, je trouve que c'est complètement ridicule, et je suis extrêmement choqué que des patrons de grandes entreprises s'engagent là-dedans. Parce que je sais que par exemple Claude Bébéard, le président créateur d'AXA, s'est engagé très fort là-dedans et d'autres, et je suis choqué qu'il le fasse pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que c'est très injuste pour les gens qui ne bénéficient pas du système, parce que finalement c'est de la discrimination contre d'autres personnes, puisque vous savez, le CV anonyme, c'est pour favoriser les personnes qui habitent dans tel quartier, etc. Et il paraît que le fait qu'ils habitent là, ça les gêne pour trouver un emploi, etc. Je crois donc que c'est une discrimination tout à fait injuste. Je crois en plus que les grandes entreprises qui lancent ça, ça veut dire qu'elles ont beaucoup d'argent, qu'elles ont des directeurs des affaires humaines, des DRH, comme on dit, qui sont capables de gérer ça. Ça va renforcer le coût des recrutements, et ça n'empêchera pas que si le jour J, le candidat ne convient pas, eh bien on ne le prendra pas tout de même, parce que je reviens encore pour dire... si on prend un candidat, c'est parce que sa tête vous revient, et bien c'est tout à fait ça, parce qu'il vous convient, vous le prenez, et sinon vous ne le prenez pas. Vous savez qu'un charcutier s'est trouvé accusé parce que un charcutier travaille le porc, comme on sait, il s'est trouvé accusé parce qu'il refusait l'entrée dans son équipe d'un musulman, ce qui me paraît tout à fait logique.
Non, mais je crois qu'il ne l'a pas refusé, il a voulu le prendre, mais le musulman ne voulait pas travailler le porc.
Ah voilà, donc ça n'allait pas, ça n'allait pas, bon. Alors vous savez, je suis très hostile à ça, ça va renforcer le coût des recrutements, ça va ralentir le recrutement, parce que les recruteurs vont prendre des précautions pour... juger comme ils veulent, et puis ça n'a pas de signification, parce que si vous favorisez les personnes qui habitent dans tel quartier, ben vous avez des tas de gens qui vont se mettre à aller habiter dans tel quartier pour être favorisés. Alors vous savez, je trouve que c'est très très mauvais, ça fait partie encore des mesures multiples du code du travail qui freinent l'emploi, hein. Et puis alors je rappellerai que si il n'y avait pas de chômage, parce que 5% c'est pas de chômage comme en France ou en Grande-Bretagne, eh bien tout le monde trouverait des emplois, y compris les personnes qui se trouvent dans les banlieues, hein. Et vous parliez de l'économie américaine tout à l'heure, vous disiez ils emploient beaucoup d'illégaux, ça veut dire que la richesse américaine est telle que malgré les barrières, puis ils sont obligés de mettre des barrières, vous savez, le long de la frontière mexicaine, et que ces barrières sont quelquefois surveillées, même par des citoyens qui prennent le fusil la nuit, je sais pas comment ils font, mais enfin.
Oui, on a vu ça, oui.
Malgré ça, ça veut dire que l'Eldorado américain est tellement riche que des illégaux arrivent, et malgré les conditions médiocres qu'on leur fait. Vous savez, c'est comme ça, les sociétés riches attirent les sociétés pauvres, j'allais dire malheureusement, parce que ça va continuer, puisque vous avez des sociétés, en particulier en Afrique, où le pouvoir ne fait rien pour améliorer la situation des gens, et alors à ce moment-là, évidemment, ils prennent des risques énormes que l'on voit, et on lit ça dans les journaux, c'est épouvantable, ils traversent la mer dans des conditions épouvantables, quelquefois ils coulent, et tout ça pour aller vers l'Eldorado de nos pays, qui malgré tous nos défauts, sont encore un Eldorado pour eux.
D'accord. Il y avait encore une autre chose sur laquelle je voulais m'entretenir avec vous. On change un petit peu de sujet, là, c'est la manifestation turque qui a eu lieu à Lyon samedi dernier.
Alors là, je dois dire, je ne suis pas au courant, ça veut dire que...
Alors, je vais vous raconter. Donc, je veux dire, il y a un comité arménien qui a voulu mettre donc un mémorial à Lyon en mémoire des Arméniens massacrés pendant le génocide.
Oui.
Et ça, c'est une chose que les Turcs ne supportent pas. Ils vont même jusqu'à dire qu'il n'y a jamais eu de génocide. Et je suis allé en Turquie, moi, il y a quelque temps. Et si vous allez dans l'est du pays, vous avez un musée mémorial du génocide arménien. Mais il s'agit en fait du génocide que les Arméniens auraient fait subir aux Turcs. Ce qui est quand même un petit peu énorme, alors qu'on sait que finalement, il y a eu plusieurs millions d'Arméniens qui sont passés à la trappe et d'Assyro-Chaldéens qui ont été massacrés dans des conditions assez effrayantes. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a eu vraiment une forte manifestation de résidents turcs à Lyon, et ils ont brandi donc des pancartes disant il n'y a jamais eu de génocide arménien. Or, la loi française reconnaît officiellement un génocide arménien, c'est du négationnisme pur. Alors il y a bien eu quelques réactions à gauche, à droite. Je crois que le parti communiste local a déclaré son indignation. Mais bon, je veux dire, on voit apparemment qu'il y a des poids et des mesures différents. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation en Turquie, mais ça semble un petit peu impressionnant, c'est cette poussée de nationalisme comme ça.
Oui, j'ai entendu parler de cela. Et effectivement, maintenant, ce que je reconnais une information, dans ce que vous dites, je reconnais une information que j'ai eue. C'est évidemment insupportable. Ça veut dire que tout ça, c'est toujours extrêmement sensible. Et ça vient toujours du fait que l'on veut faire rentrer la Turquie dans l'Europe, de sorte que ça excite les Turcs qui habitent ici ou là. Moi, je suis très hostile à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Et comme, à tort, le gouvernement français pousse l'entrée de la Turquie dans l'Europe, il aurait dû leur faire comprendre au gouvernement turc qu'il était même bien obligé de reconnaître qu'il y a eu un génocide des Arméniens. Mais vous savez, en plus, tout ça, c'est des combines diplomatiques, parce que les génocides, il y en a eu. Il y a eu le génocide des Bourgs par les Anglais, qui fut absolument terrifiant, et je ne crois pas qu'on l'ait reconnu comme génocide. Alors voilà, bon. Mais je voulais également rappeler que dans tout ça, il y a des négociations diplomatiques compliquées, parce que j'ai lu, et je ne sais pas si c'est vrai, que le président, mais là je rentre de nouveau dans un problème suisse, parce que vous savez, vous connaissez le massacre des Suisses en 1792.
J'ai une bonne partie de ma famille qui est passée à la trappe, hein, pour tout vous dire.
Ah bon,
on a été un petit peu scandalisés, parce que donc il y a notre président qui n'est pas le président de la Confédération, mais qui est le président du Conseil fédéral, ce qui est à peu près la même chose, mais c'est
ah bon, c'est le président du Conseil fédéral.
Le président du Conseil fédéral, Samuel
mais
Schmitt.
C'est l'équivalent d'un président de la Confédération.
C'est pas le premier citoyen du pays, c'est le président du Parlement, le premier citoyen du pays. Enfin,
c'est le président du Conseil fédéral.
Ouais, je crois qu'on dit quand même président de la Confédération pour le président du Conseil fédéral.
Les sept ministres.
Voilà, les sept singes.
Et c'est lui qui est venu.
Alors c'est lui qui est venu, il est allé. Parce que bon, il y a eu, comment vous dire, il y a eu autrefois, donc on nourrissait quand même un certain respect pour ce qu'on appelle normalement le service suisse à l'étranger, qui n'est pas du mercenariat. C'était vraiment une capitulation entre deux États. Et pour vous donner un exemple, quand les Espagnols envahissent la Valtelline Grisonne pendant la guerre de 30 ans, c'est un tiers de l'armée française qui débarque en Suisse à la rescousse, si vous voulez. Donc c'était vraiment une alliance entre deux États, mais ça a été, il est vrai, une source de richesse assez importante pour la Suisse. Puis il n'y a pas eu que la France, il y a eu le Vatican, Hollande, la Prusse, la Sicile et ce genre de choses. Voilà. Et donc vous avez une très belle sculpture, vraiment Semper Fidelis, c'est le lion de Lucerne qui vraiment rappelle le martyr de 700 à 800 Suisses qui, sur ordre quand même de Louis XVI, ont été massacrés par les Français aux Tuileries le 10 août 1792, comme on dit en Suisse. Si vous allez au château de Pantes, au musée du service suisse, c'est à côté de Genève, ils ont gardé le billet que Louis XVI a écrit et qui dit ordre aux Suisses de rentrer dans leurs casernes et de rendre les armes. Et c'est à cause de ça que les Suisses ont été massacrés. Donc Samuel Schmitt, le président, est allé là-bas et aux dernières nouvelles, je crois que aucun officiel français ne s'est rendu là-bas. Parce qu'évidemment, c'est les Suisses qui gardaient l'ancien régime. Personnellement, je trouve ça absolument scandaleux. On aurait dû, franchement, vous envahir avec nos chars et vous tomber dessus à coup de F-18.
C'est une insulte. Mon information était donc exacte.
Oui, donc il y a eu une espèce de cérémonie, mais je ne sais même pas si on a eu un sous-préfet.
D'accord.
Et là de mon point de vue, ça mérite un pilonnage en règle.
Mais là, justement, c'est pour ça que je lis ça à l'autre phénomène, parce que finalement, il semble que le gouvernement suisse n'ait pas fait de scandale à la suite de ça, ce qui est la preuve de, également peut-être d'une certaine faiblesse.
Mais disons, le gouvernement suisse descend des radicaux qui, au XIXe siècle, ont fait des pieds et des mains pour justement interdire ce qu'ils appelaient le mercenariat. Et je vais d'ailleurs vous étonner en vous disant, par exemple, que dans la situation, parce que le Kulturkampf a duré assez longtemps en Suisse, et la Suisse est un des derniers pays du monde, avec le Bahreïn et l'Arabie Saoudite, à avoir rouvert ses relations diplomatiques avec le Vatican. C'était en 98. C'est un conseil fédéral qui est toujours en exercice, c'était Couchepin, parce que Couchepin a Valaisan. Donc nous avions nos relations avec la garde suisse, mais il n'y avait pas d'ambassadeur. Et maintenant, je crois même que c'est pas vraiment un ambassadeur, c'est une forme de légation auprès du Vatican. C'est une façon de se foutre de la gueule du monde, ça, c'est absolument incroyable.
C'est l'avocat Couchepin?
C'est un autre.
Je connais un avocat. Oui, c'est ça.
Donc ça, c'était quand même un coup assez monumental, mais évidemment, on n'en a pas beaucoup parlé. On en a plus parlé en Suisse il y a quelques années, quand il y a eu une votation qui a enfin donné l'autorisation aux évêques suisses de faire des diocèses sans avoir à demander la permission au Conseil fédéral. Donc il y a encore ce type d'ingérence. C'est une situation assez particulière. Il y a eu une petite guerre au milieu du 19e entre cantons catholiques et cantons radicaux, anticléricaux. Les catholiques ont perdu de peu, mais ont quand même perdu. Et depuis alors, même si le catholicisme a été plutôt bien préservé dans les cantons catholiques, en général, les autorités de la Confédération étaient quand même ouvertement hostiles, en tout cas dans le fond, peut-être pas tant dans la forme, au Vatican. Et je vous dis, on avait quand même ces relations assez proches avec le Vatican de par la garde suisse, mais on n'avait pas de relations diplomatiques. Ce qui est quand
mais
même,
vous parlez du billet de Louis XVI. Louis XVI, effectivement, a, je crois, demandé aux Suisses de rentrer dans leur caserne. Et l'interprétation historique de cet événement est assez difficile, parce que il y a des historiens qui disent que ces piétons, qui étaient, je crois, le maire de Paris, qui était un homme tout à fait douteux, qui leur a dit non, n'obéissez pas au roi, tirez sur les manifestants, parce qu'ils savaient que les manifestants allaient les massacrer à ce moment-là. Mais enfin, c'est un point d'histoire assez difficile.
Les Suisses se sont fait dégommer, enfin, je veux dire, ils ne se sont pas battus parce qu'ils tenaient les Tuileries, ils tenaient tout, je veux dire, c'était assez facile, c'était quand même d'excellents soldats.
Voilà.
Enfin, et ils auraient pu très bien retourner à la situation, donc il est quand même clair qu'ils ont tombé les armes.
Des événements passés, quoi.
Mm-hmm. Mais pas oublié.
Voilà,
écoutez, on va passer un disque et je vais essayer d'avoir Francis Richard.
D'accord.
Pour savoir s'il a des nouvelles. Je vous
reprends
tout à l'heure.
Ah, d'accord, donc vous me reprenez.
Voilà, à tout de suite.
D'accord.
C'était un petit clin d'œil à nos amis anti-CPE, hein, l'hymne national soviétique. Alors, nous avons des nouvelles de Roland. Il aurait envoyé un SMS. Il est, semble-t-il, dans un commissariat, le commissariat du 18e arrondissement.
Oui.
Alors, nous allons, si vous le voulez bien, Michel, nous allons essayer d'appeler le commissariat du 18e pour avoir des nouvelles, quoi. Alors, je vais faire le numéro. Donc, vous ne pourrez pas entendre Michel parce que je fais ça sur la ligne téléphonique.
Oui, donnez-moi des nouvelles, je préfère, oui, c'est ça.
Mais je vais donc essayer. Voilà. Je vais donc essayer d'avoir leur numéro, donc je crois que je
préfère pas intervenir. Bon.
Le 033. Non, parce qu'on met pas un journaliste futile d'un blog helvétique dans en tôle. Ça marche pas comme ça. Alors voilà. On essaye de faire marcher ça. Le numéro est composé.
Correspondant, merci de bien vouloir patienter pour mieux vous informer sur les services mis à votre disposition par la préfecture.
Donc là, nous avons de la musique pour le moment, c'est vous dire.
36 67 22 22, 0,225 euros la minute sur votre téléphone à touche.
Il ne faut pas être poursuivi par des bandits, hein, parce que là, vous avez du classique.
Préfecture de police, gratuit.
Et une jolie voix féminine qui vous propose des prospectus.
Mais j'entends pas.
Ou également consulter le site internet de la préfecture de police. www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr.
Peut-être qu'on peut arrêter là et puis je vous rappelle demain.
Alors, on va peut-être faire ça comme ça, oui, effectivement, parce que je crois que nous avons fini. Je vous rends votre liberté.
À quelle heure voulez-vous que je vous rappelle demain?
Je vais juste couper le téléphone, je les reprendrai tout à l'heure. Alors écoutez, je vous remercie bien et puis on se rappelle bientôt, effectivement, on s'entendra.
On vous rappelle demain vers 10h par exemple.
Pas de problème, merci pour tout Michel et puis à bientôt.
Demain, alors. Au revoir Adrien.
Alors, chers auditeurs, je reprends la chose un petit peu seul. Je vais toujours essayer d'avoir donc la police de Paris pour savoir ce qu'est devenu Roland Richard. En attendant,
sur
vous êtes
téléphone à touche,
tous...
3611, suivi de préfecture de police, gratuit les 3 premières minutes, 0,112 euros...
Vous êtes tous invités, évidemment, à intervenir, si le cœur vous en dit, pour soutenir notre ami Roland Richard.
www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr. Communication avec la préfecture de police. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Merci de bien vouloir patienter. Pour mieux vous informer sur les services mis à votre disposition par la préfecture de police, veuillez composer le 08 36 67 22 22 0,225 euros la minute sur votre téléphone à touche ou le Minitel.
Alors, nous sommes toujours en ligne avec le 18e arrondissement, le commissariat de police, où notre ami Roland Richard devrait être enfermé. On craint malheureusement pour la nuit, pris dans une rafle.
www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr.
On va vous passer un petit disque en attendant, on espère les avoir, mais bon, parti comme
bonjour,
c'est.
Vous êtes en communication
ça m'a l'air difficile. Voilà, vous êtes toujours libre d'intervenir, il nous reste quelques minutes encore avant de finir l'émission. On vous donnera le plus vite possible une nouvelle de Roland. On lance un disque et puis on vous reprend tout à l'heure.
67 22 22 0,225 euros.
À mon dernier repas, je veux voir mes frères.
Adrien Drinmat du Bureau audiovisuel francophone à Fribourg en Suisse. Je vous appelle parce que je crois que vous avez un de nos journalistes dans votre commissariat. Je crois
alors
qu'il a
là,
été ramassé.
Je vais vous donner le numéro à appeler parce que là vous êtes au 4 et il doit être donc au 18. C'est...
Mais j'ai appelé le 18 en fait. Hein.
Ah ouais, mais c'est l'ancien numéro, hein. C'est pour ça que ça retombe sur le...
D'accord, les... alors je prends le nouveau.
Ok, alors on rectifie le tir, c'est 0153.
53.
Voilà, 41-50-00.
41-50-00. Merci
voilà.
Beaucoup. Hein.
Ben, je vous en prie, bonne soirée.
Tout de bon, au revoir. Ok, alors c'est reparti pour un tour, ça valait la peine d'attendre. 53... 41-50-00. La liberté de la presse au bout du fil.
18e, bonsoir.
Bonsoir madame Adrienne Drinmat du bureau du Vieux francophone à Fribourg en Suisse.
Pardon, tu abaisses la radio là-bas. Mais pardon, je n'ai pas compris.
Oui, voilà, on est on est une radio sur Internet, on est en ligne là depuis la Suisse. Nous vous appelons parce que nous pensons que vous avez un de nos journalistes enfermé chez vous. Il aurait
été. Aucun renseignement par fil. Bonne soirée, au revoir.
D'accord.
Le 18e, bonsoir.
C'est toujours mon aimerait quand même savoir, avoir des nouvelles, juste savoir comment
non,
on va.
Non, aucune nouvelle, monsieur, pour le moment, ils sont en train d'être fouillés et de passer devant les OPJ. Nous, on n'a aucun renseignement, c'est la radio, ils n'ont pas le téléphone en bas. Dès qu'ils auront fini, ils seront libérés ou ils auront le droit de passer un coup de téléphone.
Ils vont passer la nuit chez vous ? C'est gay, c'est tout ce qu'on aura pu avoir. Bien, écoutez, on vous donnera des nouvelles dès qu'on en aura. Pour l'instant, ça m'a l'air un petit peu compromis. J'espère qu'il aura une nuit quand même pas trop difficile. On vous passe un disque et on vous rattrape ensuite.
Pas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. À mon dernier repas, je veux voir mes voisins et puis quelques Chinois en guise de cousins. Et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe, de ce vin si joli qu'on buvait en Arbois. Je veux qu'on y dévore après quelques soutanes une poule faisane venue du Périgord. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir les arbres dormir en refermant leurs bras. Et puis je veux encore lancer des pierres au ciel en criant « Dieu est mort » une dernière fois. À mon dernier repas, je veux voir mon âne, mes poules et mes oies, mes vaches et mes femmes. À mon dernier repas, je veux voir ces drôlesses dont je fus maître et roi, ou qui furent mes maîtresses. Quand j'aurai dans la panse de quoi noyer la terre, je briserai mon verre pour faire le silence. Et chanterai à tue-tête à la mort qui s'avance les paillards de romance qui font peur aux non-nêtes. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir le soir qui chemine lentement vers la plaine. Et là, debout encore, j'insulterai les bourgeois sans crainte et sans remords une dernière fois. Après mon dernier pas, je veux que l'on s'en aille, qu'on finisse ripaille ailleurs que sous mon toit. Après mon dernier pas, je veux que l'on m'installe assis seul comme un roi accueillant ses vestales. Dans ma pipe, je brûlerai mes souvenirs d'enfance, mes rêves inachevés, mes restes d'espérance. Et je ne garderai pour habiller mon âme que l'idée.
C'est une radio suisse et on a essayé d'appeler le commissariat du 18e parce que vous avez apparemment embarqué. Allô ?
Il répond pas ?
Bah si, ils veulent pas en fait répondre, ils nous ont répondu, mais ils ont...
Ok, d'accord, bon bah c'est pas grave, je vous donne le numéro de la division, parce que de toute façon, s'ils veulent pas le dire, on devine à peu près où je m'étais emmené, hein. S'ils ont été interpellés malheureusement sur le 7e, donc c'est la 3e.
Sur le 18e, il est dans le commissariat du 18e apparemment, de ce qu'on a pu savoir, mais...
Ah, il est là-bas encore ?
Ben apparemment ils sont en train d'être fouillés, mais bon c'est quand même un journaleux donc.
Ah d'accord, donc c'est sur 18. Alors je vous donne le numéro de la division, appelez-les, parce que autrement on va pas en finir avec le commissariat central. D'accord. C'est 01 53 19 19 44 60. Là vous demandez un OPJ, hein.
D'accord.
Officier de police judiciaire, parce que autrement les gars au commissariat, ils ont autre chose à faire, ou alors ils veulent pas donner renseignements. Enfin, on les comprend un peu, ils sont débordés. Hein.
D'accord.
Donc, appelez direct la DPJ.
Entendu. Voilà. Ben, c'est ce que je vais faire.
Ok.
Merci beaucoup, monsieur. Hein. Au revoir.
Mais je vous en prie, au revoir.
Bien, alors on va essayer encore une fois ça. Et il pourra pas dire qu'on s'est pas démené. Alors, 53, 19, 44, 60.
Oui, la 2.
Oui, bonjour monsieur Adrien Drinmat du bureau audiovisuel francophone en Suisse. On est une radio, donc c'est la préfecture de police qui m'a donné votre numéro. On est une radio suisse et il semblerait que vos services de police aient embarqué un de nos journalistes. Il est dans le commissariat du 18e, je crois, et là-bas personne n'a pu nous répondre, ou en fait personne n'a voulu nous répondre. On aimerait savoir ce qu'on peut faire pour le récupérer.
On aurait fait quoi ?
Il s'est fait embarquer par la police.
Ah oui, bah écoutez,
alors qu'il était là-bas pour prendre du son, quoi.
Ah ouais. Écoutez, il s'appelle comment, lui ?
Roland Richard.
Ah, nous, on n'a pas ce nom, là, on garde la vue. Et oui, il a été embarqué où ? Vous savez, où ?
Pas vraiment, en fait. C'est pas trop loin de l'opéra.
Ah ouais. De l'opéra ?
Ouais, c'est de ce que j'ai compris. Mais je veux dire, l'idée, c'est qu'on a peu de renseignements. Mais il serait maintenant... il a envoyé un SMS à sa mère, et il serait maintenant dans le commissariat du
18. Il n'y a personne de ce nom, là, en tout cas, chez nous.
Bah, c'est quand même étonnant. Allô ? Qu'il n'ait pas donné signe de vie, oui.
Oui, mais nous, on n'a personne de ce nom-là. Personne n'a gardé de ce nom-là chez nous.
Mmh. Voilà. Il n'y aurait pas quelqu'un au commissariat du 18e qui pourrait nous répondre ?
Ah ben, appelez-les, ou sinon appelez-les, hein, c'est eux qui vous le diront, moi je peux pas répondre à leur
On
place,
les a appelés,
hein.
Ils nous ont dit, ils sont tous encore en train de se faire fouiller, on n'a rien à dire.
Ah bah écoutez, moi je peux pas vous en dire plus, moi chez nous on l'a pas en tout cas, ça je peux vous le certifier.
Enfin, je sais pas comment ça marche en France, mais bon, les journalistes en général, on les met pas en prison.
Comment ?
En Suisse, en tout cas, les journalistes finissent pas en prison.
Et moi, je vous dis qu'il est pas chez nous, et je sais pas s'il est en prison, s'il va l'être, hein, c'est pas mon...
D'accord.
Ok.
Est-ce que vous pourriez pas faire en sorte que quelqu'un nous réponde au commissariat du 18e ?
Comment ?
Est-ce que vous pourriez pas faire en sorte que quelqu'un nous réponde au commissariat du 18e ? Parce qu'on nous a refusé deux fois.
Alors, eux, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, et puis moi, je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi, donc je vous dis que moi, j'ai personne de ce nom-là. Voilà.
D'accord. Voilà. Bien, merci beaucoup. Ok, bon. Je sais pas si un auditeur a une idée, moi je suis un petit peu à court. On espère quand même avoir très vite des nouvelles de Roland, et puis on vous en donnera le plus tôt possible, mais on espère qu'il va passer une nuit pas trop difficile avec ses copains anarchistes dans une petite cellule, ça va être dingue. Il va pouvoir nous raconter des tas de choses. Bien, là-dessus, on vous salue bien, on compte sur votre soutien, c'est sûr, et puis on compte surtout pour les prochaines émissions sur vos interventions, hein. Il y a toujours de plus en plus d'auditeurs, mais ils sont apparemment assez timides. On aimerait bien que vous preniez un petit peu cette émission en main, parce qu'on peut pas non plus tout faire tout seul. Là-dessus, je vous quitte, j'ai été personnellement très heureux de passer cette soirée en votre compagnie, et vraiment je vais donc m'occuper au plus vite du cas de notre ami Roland Richard. Personnellement, je dois dire que les services de police sont beaucoup plus coopératifs en Suisse qu'en France, hein. Ceux-là ont l'air fatigués, énervés. Alors c'est un petit appel que je lance aux anti-CPE, aux étudiants en général. Foutez-leur la paix de temps en temps pour qu'on puisse gentiment avoir la vie un peu plus facile et agréable. Voilà, c'était BAF Radio. On vous souhaite une bonne soirée, hein, un petit chocolat et au lit, et à la semaine prochaine. Tout bon pour tous.